Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci beaucoup à Couperin de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Ma présence peut peut-être un peu surprendre dans la mesure où je travaille en tant qu'analyste financier pour Exane BNP Paribas, un courtier en bourse. La bourse et les marchés financiers sont peut-être un petit peu éloignés de vos préoccupations quotidiennes. Et pourtant, ça fait près de 15 ans que je passe une grande partie de mon temps à suivre les débats autour de l'open access, de l'édition scientifique et de ses principaux acteurs. En effet, mon travail consiste à conseiller les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les personnes qui gèrent notre épargne ou notre retraite, quand acheter ou vendre des actions de sociétés cotées en bourse telles que Reed Elsevier, Informa, John Wiley, Wolters Kluwer et d'autres éditeurs scientifiques et professionnels. Au cours des dernières années, le thème de l'open access a souvent dominé les débats parmi les intervenants financiers sur les marchés boursiers. Est-ce que l'open access est une source de risque pour les profits des éditeurs, demandent certains investisseurs? Est-ce au contraire une opportunité de croissance, questionnent d'autres actionnaires? Aujourd'hui, ma présentation comporte trois grandes parties. Après un bref rappel du fonctionnement un peu sommaire de la bourse, je souhaite revenir sur la période 2002-2012 où l'open access était grandement perçu comme un risque majeur pour les éditeurs et enchaîner par la suite sur la période plus récente où la perception a profondément changé. Mais tout d'abord, en quoi est-ce que le cours de bourse d'une société est-il un élément révélateur? Le cours de bourse est en fait le reflet de ce que pense le marché. Par marché, j'entends des centaines, voire des milliers de personnes, souvent expertes, qui observent une société et son industrie et qui prennent parti sur l'évolution des profits de cette société. Les opportunités de croissance s'améliorent-elles? Alors le cours tend à monter. Au contraire, si le marché pense que les risques qui se profilent sont de nature à faire baisser les profits ou le rythme de croissance, alors le cours de bourse tend à baisser. En haut à droite de cette diapo figure le cours de l'action de Reed Elsevier, avec près de la moitié de ses résultats exposés au monde de l'édition scientifique. Reed Elsevier est, comme vous le savez, un des grands acteurs dans ce domaine. Entre 2002 et 2012, le cours a oscillé entre 6 et 10 euros par action et s'est montré légèrement baissier. Outre l'évolution des profits d'une société, le cours de bourse peut fluctuer en fonction d'autres éléments, comme par exemple le prix du pétrole, une crise bancaire internationale, le ralentissement de la Chine et tant d'autres. Du coup, afin d'isoler les éléments spécifiques à une société, les analystes préfèrent se concentrer sur ce qu'on appelle la performance boursière relative, relative à un indice de référence, comme par exemple le CAC 40 ou l'indice des médias en Europe. Le graphique en bas à droite reprend, sur la période 2002-2012, l'évolution du cours de bourse de Reed Elsevier relative à l'indice des médias en Europe. Il isole ainsi les éléments spécifiques à Reed Elsevier. Que nous suggère cette évolution sur 2002-2012? Selon nous, elle suggère que durant cette période, l'open access était perçu comme un risque majeur pour les profits du groupe. Les grandes dates de l'open access ont souvent conduit les investisseurs à vendre le titre et ainsi correspondent à des périodes de pression sur le cours. Ce fut vrai suite à la déclaration de Budapest en 2002, suite au lancement de PLOS Biology en 2003, suite à l'enquête parlementaire britannique en 2004, en 2008, lors de l'annonce de la politique open access du National Institute of Health aux États-Unis, plus récemment, lors de la pétition du mathématicien Gowers ou le rapport de Finch en 2012. Durant cette période, l'open access était perçu comme une menace pour les profits d'Elsevier. La croissance continue du nombre de mandats en Green Open Access faisait craindre que le monde académique allait bientôt substituer ses articles en libre accès au contenu payant des éditeurs. Même le Gold Open Access faisait craindre que la rentabilité des éditeurs, avec leur marge opérationnelle souvent au-dessus de 30%, allait baisser. En effet, là où Reed Elsevier génère environ 4 500 à 5 000 dollars de revenus par article publié dans des revues à abonnement, ces éditeurs ne gagnent en moyenne que 2 000 à 3 000 dollars dans le modèle en Gold Open Access. À chaque annonce importante sur l'open access, le risque de changement de modèle économique revenait sur le devant de la scène et influençait la perception des investisseurs qui concevaient l'open access comme un risque pour les profits de Reed Elsevier. Et puis, à partir de l'été 2012, la perception du marché financier a profondément changé. Il est difficile de savoir exactement pourquoi cette perception a changé. Peut-être que l'accélération de la croissance d'Elsevier a fait basculer l'opinion de marché. Peut-être que certains rapports d'analystes y ont contribué. Peut-être que la tentative d'introduction en bourse de Springer à l'été 2013 a convaincu que l'open access pouvait être une source de croissance supplémentaire pour les éditeurs. Toujours est-il que malgré des annonces importantes comme la politique Open Access de la Maison-Blanche en 2013, le cours de bourse de Reed Elsevier a fortement progressé. Aujourd'hui, le marché pense que l'Open Access ne constitue plus de menaces à moyen terme et devrait pouvoir coexister avec le modèle d'abonnement sur le long terme. Cette thèse est aussi celle que les dirigeants de ces groupes d'édition communiquent à leurs actionnaires. La pénétration limitée du Green Open Access et sa progression, certes régulière mais lente, ne font plus craindre des désabonnements massifs. Sur le long terme, le marché pense aujourd'hui que les éléments de formatage qu'apportent les gros éditeurs sont assez différenciants pour protéger les abonnements. En effet, les sondages de lecteurs suggèrent que la version finale de l'éditeur est préférée par rapport à la version brute disponible en open access. Les outils de visualisation, de recherche, la qualité rédactionnelle propre à la version des éditeurs semble offrir une valeur ajoutée que les chercheurs préfèrent. De plus, les périodes d'embargo, dont sont assorties la plupart des mandats, offrent une protection à la valeur économique des contenus d'Elsevier. Près de la moitié de tous les téléchargements de ScienceDirect interviennent dans les 12 mois suivant la publication. Une période souvent protégée par les embargos. Enfin, le marché pense également que dans le cas hypothétique d'un basculement vers le Gold Open Access, les gros éditeurs, et en particulier Elsevier, devraient pouvoir compenser la pression tarifaire par des hausses de volume. Elsevier rejette aujourd'hui près de 2 articles sur 3. Autant d'articles que cette société pense pouvoir monnayer dans un univers théorique où le Gold Open Access viendrait à dominer. Non seulement l'Open Access n'est plus considéré comme un facteur de risque aujourd'hui, mais de façon peut-être encore plus paradoxale, il est devenu un vecteur de croissance des profits pour les principaux éditeurs. d'Elsevier à Kluwer, en passant par les Wiley, Informa et bien sûr Springer, tous les éditeurs ont récemment investi pour se positionner sur le Gold Open Access. Cogent OA est le nom de la division Open Access d'Informa, Taylor & Francis, formée il y a à peine 2 ans. Elsevier publiait autour de 50 revues en Gold Open Access en 2013. Fin 2014, elle en publiait plus de 100. Hier, sur son site web, elle répertoriait 374 revues en Gold Open Access. Gold Open Access représente près du tiers de la croissance des revenus des revues de Springer, selon nos estimations, et plus de 40% pour celles de Wiley. Un véritable vecteur de croissance. Aujourd'hui, l'édition scientifique reste un secteur aux caractéristiques financières attractives. Malgré la grande récession que nous avons traversée, les revenus d'Elsevier, Springer et autres Wiley ont continué de croître de l'ordre de 1 à 4% par an en 2008, 9, 10, 11 et les années qui ont suivi. Bien peu de sociétés cotées en bourse ont pu maintenir une croissance durant les années de crise profonde. En fait, le graphique en haut à gauche montre que depuis 1947, les dépenses d'abonnement aux revues scientifiques n'ont cessé de croître aux États-Unis, même durant les nombreuses périodes de récession économique que ce pays a traversées. Le pricing power qu'exploitent les éditeurs est grandement lié à la structure de marché, où une offre quasi monopolistique fait face à une demande constante. Un marché où les hausses de prix sont absorbées par les bibliothèques, contraintes d'ajuster d'autres postes budgétaires, comme le montre le graphique en haut à droite. De plus, les éditeurs bénéficient également d'opportunités de croissance dans les pays émergents, où nous estimons que la dépense par chercheur en abonnement aux revues est sensiblement inférieure aux pays développés. La croissance économique dans ces zones devrait permettre un rattrapage progressif. En 2015 ou en 2016, la Chine devrait devenir le premier pays au monde en nombre d'articles publiés, devançant ainsi les États-Unis. Enfin, notons également que les managers de ces groupes d'édition ont œuvré avec succès à la réduction de leurs coûts opérationnels, notamment en délocalisant une partie de leurs coûts de production à Chennai, Mumbai ou d'autres hauts lieux de la délocalisation en Inde. L'open access comme source de revenus supplémentaires et non de risques, une industrie défensive qui bénéficie de vecteurs de croissance structurelle dans les pays émergents, des sociétés dont la rentabilité progresse, autant de raisons qui expliquent que, loin de baisser, les cours de bourse de Reed Elsevier, ou plutôt RELX, comme la société se nomme désormais, que les cours de bourse d'Informa, de Wiley, de Wolters Kluwer ont augmenté ces dernières années. Néanmoins, gardons en tête que l'open access est une parmi de nombreuses incarnations d'un phénomène de société bien plus vaste. Le libre accès à l'information scientifique a son pendant dans l'édition scolaire ou universitaire avec les Open Education Resources ou dans l'édition légale avec l'Open Legal Research, par exemple. Ce phénomène de société a été merveilleusement bien décrit il y a déjà plus de 30 ans par ces quelques phrases désormais célèbres du fondateur du MIT Media Lab. La partie la plus intéressante me semble être la dernière phrase. La tension entre l'information gratuite et payante n'est pas prête de disparaître. Et la perception de l'open access par les marchés financiers pourrait donc bien changer de nouveau dans les années à venir. Merci de votre attention. Je crois qu'il reste quelques minutes pour une petite discussion.
C'était tout à fait intéressant de voir les chiffres et les courbes que vous avez montrées. Est-ce que vous-même, en tant qu'analyste, indépendamment de ce que pensent les responsables de ces maisons d'édition, vous pensez qu'effectivement, la puissance publique continuera à alimenter les bibliothèques et les crédits de recherche pour que cette croissance continue à être même de presque 1, 2 % par an pérenne. Pour vous, en tant qu'analyste, pas à l'écoute uniquement des responsables financiers des entreprises dont on a parlé.
Oui. En tant qu'analyste, les dernières personnes qu'on souhaite écouter sont ces responsables-là. Et on vit ou on meurt par nos propres idées. En 2002, quand j'ai commencé à regarder cette industrie, j'avais dans mes modèles financiers prévu qu'en 2012, l'open access dominerait. Quelques années plus tard, j'avais repoussé l'échéance à 2022. Je l'ai repoussé au calendrier grec plus récemment. La pérennité de la croissance dont on parle, notamment disons celle d'Elsevier ou Wiley, je pense, appelle à discuter deux éléments. Premièrement, une différence géographique entre les pays développés où l'environnement budgétaire est différent des pays en voie de développement ou émergents, où que ce soit l'environnement budgétaire ou les relations contractuelles sont différentes. Par exemple, dans les pays émergents, bien souvent, Elsevier a des contrats dont les augmentations tarifaires sont indexées sur la croissance du PIB local. En l'occurrence, certes, la Chine risque de ralentir, mais 6% de croissance pour Elsevier, ça restera, je pense, supérieur à ce qu'ils obtiendront du marché français dans les années à venir. Donc, une évolution géographique qui permet d'augmenter la croissance de ce que ces sociétés obtiennent dans les pays développés. Deuxièmement, l'open access est une source de croissance supplémentaire et aujourd'hui, on semble voir, on l'entendait de M. Cotta tout à l'heure également, des disponibilités financières pour financer le Gold Open Access. Troisièmement, ces sociétés sentent le vent tourner. Les augmentations de prix dans les années 90 n'avaient rien à voir avec celles des années 2000, qui n'ont rien à voir avec celles actuelles dans les pays développés. Elles sont beaucoup plus faibles. Et ces dirigeants ont investi dans une diversification de leur mix produit. Avec, par exemple, pour Reed Elsevier, ces dernières années, des produits comme Cyval ou Scopus, qui ciblent des postes budgétaires qui sont différents des postes budgétaires dédiés aux abonnements des revues scientifiques. Donc le pari que font ces dirigeants, c'est de voir une croissance stable dans, disons, le métier historique, un peu plus dans les pays émergents que dans les pays développés, et de voir cette croissance stable augmentée par des lancements de nouveaux produits autour du business historique.
Connaissons un peu ces différents chiffres, on reste néanmoins confondu par l'évolution des valeurs boursières ou des marges de ces différentes sociétés. Nous le disons souvent entre nous, ce sont les chercheurs qui font le travail, eux qui le rédigent les articles, expertisent les articles des autres, et on voit donc des sociétés dont finalement les profits ont tendance à croître plutôt qu'autre chose. Alors ma question que je voulais vous poser, c'est qu'en tant qu'analyste financier, est-ce que vous voyez une situation privilégiée à la société d'édition ou est-ce que c'est quelque chose de banal pour les sociétés cotées en bourse ou est-ce qu'il y aurait là une niche qui, quelque part, doit nous interpeller étant donné que nous nous trouvons, nous, scientifiques, dans une situation où il est de plus en plus difficile de pouvoir traiter avec ces différents éditeurs étant donné les coûts qu'ils nous imposent.
Quelques éléments de réflexion sans avoir la panacée. Premièrement, les marges opérationnelles des éditeurs scientifiques sont élevées, plus de 30%, comme le sont un grand nombre d'autres segments industriels au sein des médias, que ce soit par exemple les opérateurs de satellites comme Eutelsat, que ce soit Google par exemple, que ce soit les organisateurs de salons professionnels, dont Reed d'ailleurs est un des plus grands. Ce sont des activités qui génèrent des marges opérationnelles souvent autour de 30% ou plus. Donc, elles s'inscrivent dans une industrie où les marges peuvent être élevées. Deuxièmement, c'est vrai que dans l'édition scientifique, les marges opérationnelles sont plus élevées que dans d'autres segments de l'édition professionnelle. Dans l'édition légale et réglementaire, par exemple, un Wolters Kluwer, un Reed Elsevier, un Thomson vont avoir des marges qui vont être autour de 20%, donc une quinzaine de points inférieurs à celles des éditeurs scientifiques. Et je pense que l'acquisition gratuite de la ressource première, qui est celle des chercheurs, contribue à cet état de fait, mais pas seulement, puisque ces acteurs ont tous œuvré à une meilleure gestion de leur base de coûts ces 10 dernières années. Et les marges d'un groupe comme Elsevier, par exemple, sont passées de 33% il y a 10 ans à 38% aujourd'hui. Au même moment où des évolutions technologiques, print on demand, des évolutions géographiques de délocalisation d'une base de leur coût de production ont permis à optimiser, donc à baisser les dépenses opérationnelles et à améliorer les marges. Donc, c'est vrai que les marges opérationnelles sont élevées, plus élevées que dans notre segment de l'édition scientifique. Je pense que ça reflète la caractéristique première du business model qui est une offre monopolistique et une demande captive. Ça reflète aussi un petit peu les efforts managériaux sur la base de coûts de ces groupes.
Moi, ce n'est pas vraiment une question. Moi, ce que je voulais faire, c'était un commentaire, en fait. D'abord, voulais vous remercier parce que votre présentation était tellement claire que ça me réconforte dans mon approche de défenseur du open access. Et pour une raison très simple, c'est parce que pour moi, le but ultime d'une maison d'édition scientifique n'est pas faire du business, c'est de promouvoir la circulation et l'émergence de la connaissance. Et cette dimension-là était complètement absente d'une analyse scientifique, d'une analyse purement économique. Si c'est ça les publishers qu'on a, je ne sais pas si on les veut vraiment.
Gardons en tête que le monde de l'édition scientifique est partagé entre les éditeurs à but non lucratif et les éditeurs à but commerciaux, qui eux n'ont d'autre raison d'être que le profit.
Tout à fait, mais c'est très récent. Tous ces mouvements d'exploitation financière de la connaissance scientifique datent de l'après-guerre. Avant, l'émergence des grandes maisons d'édition était basée dans la promotion du partage de la connaissance et pas des bénéfices.
Merci. On peut quand même signaler aussi qu'on a parlé des éditeurs privés, mais il faut savoir aussi qu'il y a d'importantes sociétés savantes qui n'ont pas, a priori, de but lucratif et qui ont tout de même des logiques de développement qui sont similaires. On pense notamment à certaines sociétés savantes américaines. Donc je dirais que ce n'est pas l'apanage des sociétés privées de faire cette recherche d'accumulation. Alors dans un cas, c'est du profit. Pour certaines sociétés savantes, on sait qu'elles disposent, je dirais, d'un matelas financier conséquent. Donc il y a aussi, les chercheurs eux-mêmes doivent s'interroger. Je pense que les chercheurs qui appartiennent à ces sociétés savantes qui maximisent, je dirais, les bénéfices, doivent peut-être se retourner vers leur société savante, parce qu'après tout, ce sont des associations de chercheurs, et donc qui sont dans une dérive que l'on peut interroger. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que le marché tel qu'il s'est structuré résulte peut-être aussi de l'inaction des chercheurs qui sont progressivement en train de participer à la construction d'un système qui, in fine, va leur nuire. Alors, évidemment, le réveil commence, l'Union européenne, la Commission, je dirais, à montrer le chemin à suivre. Ce qui était très intéressant, c'est de voir tout le graphique et la pensée cohérente proposée par l'Union européenne. Et on s'interroge aussi, pour l'instant, entre le fossé, ou la distance, plutôt que le fossé, la distance qui existe au niveau de la réflexion entre la Commission et, je dirais, les États membres. Puisque quand on discute dans son propre pays avec des interlocuteurs gouvernementaux, on a l'impression que la vision n'est pas aussi claire.
Bernard Rentier, Belgique. Je pense que ce que vous venez de nous donner là est la démonstration absolue du fait qu'aucune solution qui laisse participer à notre travail des entreprises multinationales de la publication, aucune solution n'est viable. Il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce qui rend les éditeurs aussi heureux aujourd'hui, c'est la perspective du fait que le Gold Open Access, qui est finalement ce qui est exigé partout, parce que quand on dit publier en Open Access, les gens comprennent publier tout de suite en Open Access, ils ne comprennent pas nécessairement vert, ils comprennent doré. Et donc, s'ils comprennent doré, les éditeurs ont évidemment compris, et depuis longtemps, que c'est là qu'ils vont faire le pognon. À la place de le faire sur le lecteur, ils vont le faire sur le publieur. Et donc, il n'y a pas de solution, mais qu'on arrête de dire qu'il existe des solutions pacifiques avec le monde des éditions internationales. Ça n'est pas vrai.
Oui. Alain Caraco, Université Savoie-Mont-Blanc. Vous avez parlé plusieurs fois dans votre exposé du gold. Vous n'avez pas parlé du green. Comment se positionnent les grands groupes éditoriaux face au green? Alors, si vous l'avez fait, je ne l'ai peut-être pas vu.
Donc, à mon niveau, moi, je recommande autant de valeur de l'édition à la vente qu'à l'achat. J'étais négatif sur Reed Elsevier jusqu'à pas longtemps. On est positif, on redeviendra négatif. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur et le débat, je le comprends bien. Moi, je l'observe de façon impartiale et de loin. Le graphique en haut à droite ici reprend la croissance annuelle du nombre de mandats open access registrés sur Ormap et indique une croissance régulière, mais qui ne semble pas s'accélérer, par exemple, ces dernières années. Le Green Open Access, c'est pour l'éditeur la forme qui, a priori, est la plus virulente, puisque autant dans le Gold, ils arrivent à extraire de l'argent, autant dans le Green, il n'y a pas d'échange financier entre les différentes parties et l'éditeur. Et le Green Open Access était une raison qui nous avait poussé, qui m'avait poussé de 2002 à 2009-10 à être très négatif sur Reed Elsevier. Et puis j'ai changé mon fusil d'épaule quant à cette thématique. En argumentant ou en pensant notamment que aujourd'hui, le volume d'informations en Green Open Access, d'articles en Green Open Access, reste faible, disons une vingtaine de pourcents peut-être. Peut-être plus, peut-être un peu moins, mais n'est pas de nature à permettre des désabonnements massifs de la part des bibliothèques. Et que tant que la masse critique, qui est vraisemblablement bien supérieure, n'est pas atteinte, le Green Open Access représente certes une menace théorique, comme elle le fait depuis une ou deux décennies, mais qui n'a pas d'impact sur la performance opérationnelle financière de ces groupes. Le jour où la masse critique est atteinte, le jour où on voit se désabonner plus d'institutions en argumentant du Green Open Access, la thématique boursière changera. Mais jusqu'alors, elle est aujourd'hui passée sous silence.
Une dernière petite question et une réponse rapide.
Oui, une petite remarque, enfin deux petites remarques. À la suite là, de votre dernière réponse, je constate que les menaces qui, envers les éditeurs ne sont pas les mêmes que les menaces envers le monde scientifique. Vous avez dit qu'à partir de 2012, la grande crainte des éditeurs de voir la courbe de confiance continuer, enfin, à chuter, s'est inversée. Et vous avez dit que vous ne savez pas pourquoi, vous avez soumis différentes possibilités et vous avez dit que finalement, paradoxalement, au lieu d'être un facteur de risque, eh bien, l'open access est devenu à partir de 2012 un facteur de croissance. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas, dans les idées que vous avez soumises pour expliquer cette inversion de la courbe, parlé de l'auteur-payeur, qui pour moi est une raison déterminante de l'inversion de la courbe. Et je pense que les maisons d'édition, scientifiques, commerciales, ont réellement une faculté d'adaptation très forte, et c'est le cas dans l'open access. Donc quand on parle aujourd'hui du gold open access, on mélange tout. La vérité, c'est qu'en grande partie, ce qu'on appelait le gold open access, qui était vraiment une diffusion libre dans des revues à comité de lecture, en libre accès, où les auteurs, où ni les auteurs ni les institutions ne payaient. Aujourd'hui, ce modèle est en grande partie, a été en grande partie réapproprié par les éditeurs scientifiques, et il s'agit en fait d'un coût pour l'auteur qui soumet son article, et s'il souhaite avoir un open access, il doit verser environ $5,000. Donc Moi, je pense que c'est au contraire une courbe qui va continuer à monter, parce que c'est tout à fait adapté à ce qui est en train de se passer, malheureusement, en science, sur le libre accès. Et je trouve que c'est ça l'explication essentielle de l'inversion de la courbe en 2012. Voilà, c'était une remarque. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus.
Je pense qu'exprimer avec mes propres mots, je rejoins ce que vous dites, dans le sens où, lorsqu'on voit le graphique en bas à droite, en 2012, Reed Elsevier ne publiait quasiment pas ou peu de revues au format author pays. Et pendant une dizaine d'années, les dirigeants d'Elsevier avaient réfuté à la fois le risque du green sans embrasser le modèle author pays, à contrario d'autres acteurs comme Springer, par exemple, et Biomed Central et d'autres publications. Depuis 2013, Reed Elsevier a une politique qui a changé et qui est beaucoup plus axée sur le lancement de revues financées par l'auteur-payeur, qui aujourd'hui contribue autant chez Elsevier que chez Wiley ou Springer à financer la croissance, à alimenter la croissance. Et à partir du moment où il y a croissance en bourse, il y a croissance des revenus, des profits et du cours.
Merci.